L'invité de la rédaction avec Charlie Pless sur Radio Alpa.
Depuis plus d'une semaine, les médecins libéraux se sont mis en grève à l'appel des syndicats nationaux pour protester contre plusieurs mesures inscrites dans le budget de la sécurité sociale voté en décembre dernier. La mobilisation a été très suivie par les professionnels de santé et a donné lieu à un rassemblement à Paris samedi 10 janvier et à un convoi de 20 000 médecins à Bruxelles dimanche pour un exil symbolique de 5 jours. Pour mieux comprendre leurs revendications et faire un point sur cette mobilisation, nous recevons le docteur Jean-François Xiberas, président de la commission médicale d'établissement du Centre médico-chirurgical du Mans, ainsi que le docteur Marc Bamboudjian, secrétaire du bureau de la CME de la Clinique du Pré. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Alors tout d'abord, après plusieurs jours de grève et cette mobilisation à Paris, Stéphanie Rist, la ministre de la Santé, avait proposé de recevoir les médecins. Proposition rejetée par l'intersyndicale. Est-ce que c'était la bonne décision à prendre selon vous?
Tu réponds.
La décision de l'intersyndicale moi je pense que c'est.
De ne pas rencontrer décision, la ministre, je veux dire.
Je pense que c'est la bonne décision à prendre parce que, en fait, toutes ces mesures, elles ont été annoncées au mois de septembre. Et en fait, elles ont été contestées dès le mois de septembre. S'il y a un dialogue, de toute manière, il est toujours quand même préférable qu'il intervienne en amont. Et en fait, c'est plus là-dessus que les médecins se sont mobilisés, c'est-à-dire que on veut changer les règles sans eux, alors qu'ils sont une partie incontournable de la médecine en France. Donc, c'est quand même assez impressionnant de voir avec quel dédain les médecins sont traités.
Dans un communiqué, allez-y.
Les médecins libéraux, donc les médecins de ville, sont effectivement en grève, ne serait-ce que sur le secteur de la Sarthe, depuis le 5. Nous, les spécialistes, on a décidé de se mettre en grève des urgences, notamment de la permanence des soins, à la fois sur le Pré et comme le CMCM, pour marquer un petit peu, pas notre différence, mais l'impact que ça peut avoir au niveau du Mans. Sachant que on était à peu près sûr d'être réquisitionné, ce qui s'est véritablement passé dans la mesure où le centre hospitalier du Mans, ce qui n'est pas le cas dans toute la région des Pays de Loire, a demandé au préfet d'effectuer des réquisitions auprès des spécialistes de cliniques.
Est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est une réquisition?
Alors une réquisition, tout simplement, on reçoit un courrier en disant « Messieurs, il faut que vous assuriez les urgences de votre spécialité selon un échéancier, selon un programme et selon les périodes pour lesquelles vous avez décidé de faire grève. » Donc malgré tout, les urgences ont été assurées au pôle Santé Sud comme auprès en fonction des spécialités qui étaient reconnues permanence des soins. Donc auprès, c'était la main et le vasculaire. Et au CMCM, il y avait le service d'urgence, bien sûr. Après, il y avait l'orthopédie viscérale, obstétrique, bien sûr. Les femmes enceintes qui ajoutent anesthésie, c'est évident sur les deux sites, et aussi particulièrement cardiologie qui était impactée. Je crois que sur le Pré, il y avait à peu près 5-6 réquisitions. Sur le pôle Santé Sud, il y avait 43 réquisitions. Je tenais à le dire, donc on a quand même assuré par réquisition.
Et sur ces réquisitions, simplement, si vous décidez de ne pas les respecter,
c'est-à-dire que quand vous avez la gendarmerie qui vient vous chercher, c'est un petit peu délicat, donc de pouvoir refuser. Donc c'est ce qui a dû arriver pour deux chirurgiens qui voulaient être un petit peu extrémistes, mais qui n'ont pas été au final. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que d'un point de vue général, et si on veut regarder un petit peu les mesures, c'est un peu facile de taper sur l'exercice libéral. Et on est, nous, en contact permanent, les présidents de CME et avec la Fédération de l'hospitalisation privée, sachant qu'ils ont fait un petit calcul non exhaustif, je dirais, sur le gain ou potentiellement l'économie que peut représenter l'hospitalisation privée sur la France. Si on devait appliquer les tarifs public à toute notre activité, ça représenterait 1 milliard d'argent, entre guillemets, que devrait supporter l'hôpital public s'il ne faisait toute notre activité et qu'ils ne peuvent pas absorber.
Alors attendez, parce qu'on explique un peu, parce que là vous faites référence justement à une des mesures que vous contestez. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus justement ces mesures contestées du budget de la Sécu 2026?
Voilà, là, il y a un article important dans la loi de finances qui disait que la CNAM, la Caisse d'assurance maladie, pouvait de façon arbitraire, après des négociations peut-être infructueuses avec les syndicats, pouvait arbitrairement fixer la cotation de nos actes, le prix de nos actes, que ce soit chirurgicaux comme anesthésiques, et particulièrement aussi le prix alloué aux établissements. Donc ça, ce n'est pas concevable, dans la mesure aussi où notre cotation, les actes n'ont pas été revalorisés depuis 20 ans. Donc je précise bien 20 ans. Ça veut dire que 20 ans, on fait toujours les mêmes actes au même tarif, sachant aussi que la technicité a augmenté, la responsabilité a augmenté, et de chaque entreprise, qu'elle soit, tous les spécialistes ont obligatoirement, ce sont des micro-entreprises dans la mesure où ils font travailler du personnel, et que ce personnel, ben, il faut bien sûr évidemment le payer et suivre la courbe logique des augmentations de salaire liées à l'indexation des salaires.
Pardon, donc, excusez-moi, ça, mais si la caisse d'assurance maladie baisse aussi de manière autoritaire, comme vous dites, les tarifs de certains actes médicaux, c'est aussi parce qu'à côté, on a renoncé au dépassement d'honoraires, enfin à réduire les dépassements d'honoraires.
Pour juste une petite information et puis rappeler l'historique, savoir les dépassements d'honoraires, depuis quand ça vient et pourquoi ça vient. En fin de compte, ça vient depuis Raymond Barre. Et Raymond Barre, c'est les derniers budgets de la France qui étaient, entre guillemets, équilibrés, on va dire. On était au point zéro. Et il s'est aperçu avec la crise de la crise du pétrole qu'il n'allait pas pouvoir fixer son budget. Donc il a gelé, entre guillemets, les tarifs des cotations des médecins en leur autorisant d'avoir le secteur 2 pour pouvoir effectivement suivre un petit peu l'inflation et pouvoir se rémunérer à la hauteur de leur responsabilité. Et j'insiste sur le niveau de responsabilité et le niveau de formation de nos praticiens comme de nos médecins généralistes. Donc, je dirais, c'est juste un petit retour des choses. Et puis, si on voulait rentrer dans le détail, si c'était fait correctement et si nos chers dirigeants ou président de CNAM voulaient regarder un petit peu, on pourrait reprendre en détail tous les actes qui mériteraient soit une revalorisation, soit peut-être une modification, toujours est-il, et au regard de la technicité, du temps passé et de l'évolution de la médecine et des spécialités.
On comprend votre position sur le tarif par rapport à la responsabilité et l'importance de l'acte, mais il y a aussi de l'autre côté, les malades, il faut que les soins leur soient accessibles.
Tout à fait. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on n'est pas tous en secteur 2, dans le secteur libéral, mais ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'il faut être prise de conscience, c'est qu'on nous a tous obligés, à un moment donné, les travailleurs, ou tout du moins les entreprises, à contracter une mutuelle, entre guillemets, plus ou moins l'imposer à leurs ouvriers et employés, pour justement subvenir à ce genre de choses. Donc il faudrait revoir aussi la question des mutuelles, qui ont des contrats qui sont, je dirais, un petit peu aléatoires en fonction des organismes et qui prennent en charge plus ou moins bien, justement, ce côté dépassement d'honoraires. Enfin, j'appellerais plus ça un complément d'honoraires, eu égard à la prestation qui est faite, dans la mesure où, je dis ça un petit peu de façon générale, quel que soit le public, les professionnels publics comme du privé, il faut être conscient que nous, les libéraux, on a tous été formés dans le public. Et la qualité des soins et, je dirais, la qualité des gestes techniques, du moins des spécialistes, est tout à fait équivalente, quel que soit le secteur. La seule différence, c'est que on soigne aussi des patients et ces patients viennent voir les spécialistes, que ce soit anesthésiste et bien sûr chirurgien. C'est que s'ils viennent les voir, c'est qu'ils ont aussi, entre guillemets, une patientèle et une renommée qui les autorise à venir se faire opérer chez nous. Donc, voilà.
Tout de même, toujours sur cette mesure de la baisse autoritaire des tarifs de certains actes médicaux, Marc Pamboudjian, peut-être si vous pouvez répondre à cette question, Mélanie Ricard-Henry, présidente de l'association Médecins pour Demain, estime qu'il y a un danger pour les entreprises et va jusqu'à dire qu'il n'y aura potentiellement plus de médecine libérale en France si le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie décidait de baisser les tarifs. Est-ce que c'est quand même pas un peu exagéré? La médecine libérale est-elle vraiment si précaire qu'elle pourrait disparaître si ces tarifs étaient baissés?
Je ne sais pas en combien de temps, mais oui, certainement, parce que il faut voir que les médecins généralistes, parce que ça les touche eux aussi, les médecins généralistes, ils sont fortement impactés. Ils voient beaucoup de patients. Il y en a qui restent aussi après leur retraite et qui continuent à travailler après leur retraite. Si vous baissez les tarifs, les médecins à la retraite qui continuent à travailler, ils arrêteront. D'accord. Donc ça va paupériser, il va y avoir encore moins de médecins et ça ne poussera pas en tout cas les plus jeunes à s'installer, ce qui est déjà difficile. Non, je pense que ce n'est pas le bon moyen et ce n'est pas non plus la bonne façon d'appréhender les choses. Ce qu'il y a, c'est qu'on est tous des médecins, on est responsable avec nos patients viennent nous voir, on les prend en charge de la meilleure façon qu'on peut, mais il faut bien, on est tributaire sur la démographie médicale, on est tributaire de choix auxquels on n'a pas été associé. Et en fait, il y a des médecins qui s'ils exercent tout seuls, eh ben, dans ces cas-là, leur cabinet n'est plus rentable. Ils ne peuvent plus être propriétaires de leur cabinet. Alors, on leur propose des maisons de santé, des facilités d'installation. Mais en fait, ce n'est pas une entreprise libérale à proprement parler. Et sinon, s'ils s'engagent dans la voie de la propriété de leur cabinet, ils sont angoissés parce que ça veut dire qu'ils ne savent pas s'ils pourront le revendre après, s'il y aura un successeur, s'il y aura un associé qui viendra remplacer leur collègue qui va partir à la retraite dans 2 ans. C'est une grosse inconnue et je pense qu'il faut pas, il faut tirer la sonnette d'alarme, mais ça fait plusieurs années que les médecins et les médecins libéraux et les médecins généralistes tirent la sonnette d'alarme.
Alors, je voudrais aborder quand même une autre mesure au centre de la contestation. Les médecins pourraient être contraints de réduire leurs prescriptions d'arrêt de travail. Les médecins qui en prescrivent trop devront les réduire de 20 à 30%. Mais justement, que veut dire ce trop en fait ? Est-ce que vous avez un quota à respecter ? Est-ce que vous en savez plus que nous ?
En tant que spécialiste, non.
On ne prescrit pas d'arrêt de travail.
Oui, en tant que spécialiste, effectivement, j'imagine que vous avez des collègues généralistes.
On a des collègues chirurgiens qui en prescrivent, mais ils sont à l'initiation. Mais sinon, ça concerne plus les médecins généralistes. Encore une fois, moi, tout ce que j'ai vu et tout ce que j'ai entendu de mes collègues généralistes et ce qu'ils ont exprimé aussi dans les journaux, c'est simplement que s'il doit y avoir un contrôle, de toute manière, la sécurité sociale, les caisses nationales, les caisses primaires d'assurance maladie, elles peuvent déjà effectuer des contrôles. S'il doit y avoir des contrôles, ils ne sont pas opposés à ces contrôles. En fait, parce qu'ils estiment qu'ils ne font pas d'arrêt de travail de complaisance. Donc, ils se sentent en général, pour la plupart, sans problème avec ce genre de contrôle. Mais il faut après voir les modalités du contrôle. Et c'est plus là-dessus qu'il faut discuter avec les gens concernés et essayer de comprendre les médecins avant de leur imposer des règles.
Alors, avec ce mouvement de grève des médecins, l'accès aux soins devient plus difficile alors qu'il est déjà sous tension dans certains territoires et notamment en Sarthe. Cette grève, elle met potentiellement des malades en danger. Alors, Jean-François Xibéras, vous disiez tout à l'heure que les urgences ont été assurées grâce aux réquisitions. On peut imaginer quand même que cette grève, elle continue d'accentuer les tensions de l'accès aux soins dans le département. Est-ce que c'est un mal nécessaire selon vous ?
Ben, c'est-à-dire que là, cette grève, dans la mesure où la loi de finances est entre guillemets passée, et puis hein, ils sont revenus effectivement sur les articles qui étaient un petit peu chauds, il faut savoir que c'est un message d'alerte dans la mesure où on sait pertinemment que l'année 2026 avait été une année charnière où il va y avoir des discussions concernant justement la tarification. Le gros problème dans l'histoire, c'est que le problème vient de deux choses. Un, ça serait bien que la CNAM, comme le gouvernement, reconnaisse que la gestion des hôpitaux publics mérite une attention un peu plus particulière que celle qu'ils ont. Et que deuxièmement, la tarification appliquée à l'hôpital public, c'était manifestement une mauvaise chose dans la mesure où on a pu comparer un petit peu les activités, sachant que, entre guillemets, enfin, l'hôpital public n'est pas là pour être rentable. L'hôpital public est là pour soigner, effectivement, mais aussi, on l'oublie un peu facilement, c'est pour former, que ce soit l'infirmière de bloc, l'infirmière anesthésiste, le chirurgien, et faire de la recherche en même temps. Donc, demander une rentabilité à l'hôpital public, non, c'est assez stupide. Par contre, ce qu'il faut faire, c'est que faire en sorte que l'hôpital public soit mieux géré, Il y a quelqu'un, il y a Jean-Louis Borloo qui disait que l'hôpital public, avant, il y avait, je ne sais plus, 15% d'administrateurs. Maintenant, ils sont à 35% sur la masse salariale. Je crois que c'est à peu près les chiffres que j'ai pu retenir. Ils sont peut-être faux, mais dans l'absolu, c'est un peu ce qui se passe. Je pense qu'il faut voir déjà par là. Il faudrait commencer par bien gérer sa maison et puis avant de venir attaquer les médecins libéraux qui font leur job et surtout les hôpitaux privés, les cliniques privées qui, on est encore désolé, mais on soigne les mêmes patients. La clinique du Pré comme le CMCM, je sais que l'année dernière, on a invité les élus à visiter pour qu'ils se rendent compte de visu, de la technicité et de locaux et des blocs opératoires dans lesquels leurs administrés sont soignés. Bon, ils ont été un petit peu surpris effectivement du niveau qu'on avait. Et pour avoir été auprès maintenant au Pôle Santé Sud, on a la même qualité, le même matériel et on essaie toujours de progresser, de faire en sorte de proposer une offre de soins pérenne et de qualité.
Alors, on arrive bientôt à la fin de cet entretien. Je voudrais juste vous interpeller sur une dernière question. Vous opposez, les médecins en général s'opposent aussi à la loi Garot à venir qui pourrait limiter la liberté d'installation des médecins. Cette loi, pourtant, elle vise justement à doter en médecins des régions qui manquent de médecins et donc à améliorer l'accès aux soins sur le territoire. Pourquoi s'y opposer ?
En général, les médecins en libéral, ils sont quand même très attachés à leur liberté d'installation. Après,
On comprend ce principe, mais aussi à côté, il y a quand même une exigence sanitaire derrière.
Oui, tout à fait. Mais en fait, je pense que là, c'est une partie du problème, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'endroits où il n'y a pas qui veut aller s'installer là où il n'y a pas la poste, pas d'école. Pas de boulangerie, pas beaucoup de monde. Si vous avez des enfants, vous êtes jeune, vous êtes prêt à faire un effort, mais il faut encore une fois avoir des mesures qui sont discutées et qui sont acceptées plutôt que des mesures sous la contrainte. Parce que évidemment, tout le monde, on aide la collectivité, on participe à l'effort collectif. En tant que médecin libéral, on n'est pas détaché de notre société. On vit dans cette société et on participe à la faire vivre et la faire vivre mieux. Donc, je pense que les médecins, ils ne veulent pas être pris comme un pion sur un échiquier et que ça tombe. Du ministère qui les envoie dans une province où ils n'ont pas choisi d'aller.
Surtout, j'aimerais rebondir sur une chose, c'est que nos très chers dirigeants oublient une chose. C'est que les médecins, quand ils arrivent à maturité après s'installer, généralement, ils sont déjà soit mariés ou ont déjà des enfants, comme dit Marc Pompoudjian, et leur conjoint travaille, ou a sûrement un métier aussi. Très sincèrement, quelle que soit la qualité du métier, ça veut dire qu'il faut trouver deux postes dans un secteur complètement différent. Donc déjà ça, c'est une contrainte pour eux, pour trouver un endroit d'installation qui va convenir au couple. Et comme lui disait Marc...
Je me permets, c'est un peu mesquin parce que c'est pas tout à fait le même cas parce qu'on parle de professeurs. Mais les professeurs, par exemple, c'est exactement ce qui leur arrive. Quand ils sortent d'études, ils sont placés à peu près n'importe où et effectivement, il faut s'arranger avec le conjoint, etc.
S'ils sont syndiqués ou pas. Enfin, ça, c'est notre problème. Mais effectivement, je suis d'accord. Mais bon, après plus de 10 années d'études, je trouve que c'est un tout petit peu saumâtre et puis un petit peu ce genre de contraintes. On a un petit peu de mal à les supporter, surtout qu'ils ont fait tourner largement le service public pendant toute leur formation.
Dernière question simplement, la grève doit continuer jusqu'au 15 janvier. Est-ce que vous savez si elle doit être reconduite ?
Alors, pour précision, déjà, je vais revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure. Effectivement, il y a eu 20 000 personnes, il y a eu plus de 20 000 personnes selon le syndicat qui étaient à la manifestation de dimanche à Paris à partir du Panthéon. Et le deuxième point, c'est qu'il y avait 2 500 praticiens spécialistes et médecins à Bruxelles qui y sont toujours. Donc on a décidé d'arrêter la grève à la fin de leur séjour bruxellois. C'est-à-dire, je crois, le 14. Le 14,
hein, j'ai noté le 15 janvier, c'était le plan initial, je crois, de la grève.
Quand j'avais, nous, pour les urgences, c'était le 14 à 18 heures. Donc voilà. Et pourquoi ils sont allés à Bruxelles? C'est pour marquer un petit peu le coup sur le dictat aussi de Bruxelles qui l'impose à notre gouvernement concernant certaines idéologies de pratiques d'activités en fonction du territoire. Et on a pu le voir sur le plan régional de santé, où le gouvernement s'est permis de réduire ou d'annuler certaines spécialités ou certains types de spécialités, enfin types d'activités dans certains endroits, en privilégiant bien sûr, celles le reconnaissent, l'hôpital public. Et ça, c'était difficilement supportable.
Je vous remercie, docteur Jean-François Xiberas, président de la commission médicale d'établissement du Centre médico-chirurgical du Mans. Et vous aussi, docteur Marc Pamboudjian, secrétaire du bureau de la CME de la clinique du Prix. Merci beaucoup à vous deux.
Merci.
Merci.
L'invité de la rédaction avec Charlie Pless sur Radio Alpa.